Farnell Morissette, candidat libéral dans Taschereau, ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci de m'inviter.
Ben oui, content de vous voir. Les produits usagés, TPS, TVQ, le PCQ a pris l'engagement de l'enlever. Le PQ, c'est-tu quelque chose qui préoccupe le Parti libéral?
On a d'autres moyens d'aider les gens à essayer d'économiser, à essayer de faire un peu plus, arrondir leur fin de mois que ça, oui.
Donc, c'est pas dans vos cartons, là?
C'est pas dans les cartons présents.
OK. Hey, je regardais ton CV, quand même impressionnant. Tu étudié à l'Université Laval en génie civil,
ouais.
Hein, c'est ça?
Oui, j'ai commencé là.
Après ça, tu dis que tu as étudié à McGill, notamment en droit.
J'ai fait le programme de droit à McGill, qui est droit civil et common law. Et en même temps, j'étais allé chercher une mineure en économie.
OK. Et après ça, tu as travaillé à Wall Street.
Oui, pas sur la rue Wall Street, on se comprend, mais j'ai travaillé dans le monde de la haute finance. J'étais recruté par un cabinet de droit des affaires à New York.
Alors, et c'est vous à Manhattan?
Manhattan, oui, dans le Midtown, là, où la plupart des grands cabinets d'avocats, de comptables. Tout là,
comment tu as expérimenté ça?
Ça a été...
Il y a du cash là, pareil. Hein?
Oui. Tu sais, je veux dire, je veux aucunement dénigrer l'excellent travail juridique qui se fait au Québec non plus, là, mais c'est quelques zéros de plus, c'est certain. Oh, ouais, puis ça vient avec une réalité économique qui est un peu différente. Genre, moi, je me souviens la première fois que quelqu'un m'a expliqué que si je me levais de mon bureau pour aller chercher ma sandwich de l'autre côté de la rue, puis je revenais, ben ce temps-là, il était moins rentable que s'il payait quelqu'un pour me le livrer. C'est bizarre.
Tout est calculé, là.
C'est calculé à la minute. Okay. Près, ouais, là.
Les salaires là-bas, les traders font quoi, 8-10 millions?
Ça dépend énormément. Les traders, okay. Moi, j'étais pas trader, là. Moi, j'étais avocat.
Tu travaillais pour le service juridique?
Je travaillais pour un cabinet de droit des affaires. Okay. Alors, on était les avocats externes de plusieurs organismes financiers, groupes financiers différents. Alors, les salaires, je veux dire, pour les traders sur Wall Street, ça varie. Le salaire de base est généralement pas très élevé quand tu commences, mais ce qui est vraiment important, c'est les bonus de la performance. Pour les avocats, généralement, le salaire de base est un peu plus élevé.
Ça pouvait ressembler à quoi, sans vouloir dévoiler?
C'est le public. Là. Je veux dire, n'importe qui peut aller sur Internet, voir les salaires sur des avocats qui commencent pour les grands cabinets. Là. C'est des très, très bons salaires. Là. On parle de 6 chiffres en commençant, puis tu vis très bien. Là. J'ai été très chanceux de pouvoir...
Les loyers aussi à New York sont très élevés.
Les loyers sont élevés, oui. Le coût de la vie est élevé. Tout est plus cher.
Mais les salaires vont en conséquence.
Ben, c'est ça. T'sais, je veux dire, New York, c'est une ville où c'est la distinction entre les riches et les pauvres se sent très, très bien.
Ben oui, on le voit. Là, on va à New York, puis on voit la rue. Oui. C'est pas long. Là. Ouais. Donc, ce que tu retires de ça par rapport à ton expérience pour l'appliquer en politique, éventuellement?
La première chose que je retire de ça, c'est qu'on ne peut pas se permettre en tant que société d'avoir ce genre de décor de richesse-là chez nous. Puis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rabaisser les riches. Là. Je suis en train de dire qu'il faut absolument monter tout le monde. C'est un non-sens que moi, par exemple, pendant des années, là, j'allais travailler puis j'en étais conscient. Puis c'est bizarre vivre ta vie en... J'allais marcher au bureau parce que je vivais pas très loin et je passais devant le Port Authority, qui est un peu la porte d'entrée d'autobus, d'autocar de la ville. Alors, tu as beaucoup de personnes en détresse, beaucoup de personnes marginalisées en situation d'itinérance qui se retrouvent là.
Tu as le New York Times qui est pas trop loin.
Ben,
là.
C'est ça. C'était dans le building du New York Times que je travaillais. Alors, genre, je passais à côté de ces gens-là pour après ça aller dans un bureau où la réceptionniste a un bureau de marbre. C'est un non-sens vivre une vie de même, je pense. Et puis,
mais c'est quand même New York, c'est tout converge, hein? C'est le monde.
C'est le monde au complet, oui.
Je veux dire, l'argent de Wall Street, c'est l'argent de tous les traders, les gens qui
C'est l'argent
échangent.
De la planète.
Oui, c'est l'argent,
de la planète.
Donc, il y a vraiment une dichotomie. Là.
On n'a pas
ça à Montréal, on n'a pas ça à Montréal.
On commence quand même à voir l'écart de richesse croître. Ouais. Puis ça, je pense que c'est quand même un enjeu de cohésion sociale. Mais on n'est pas au niveau de New York, puis il ne faut pas se rendre là non plus.
Bon, Taschereau, quand même un comté pas loin d'ici. On est dedans, on est pas mal dedans.
On est juste à l'extérieur. Ici, on est dans Jean-Talon, mais quelques rues d'ici, c'est Taschereau.
On touche. Les enjeux, pour toi, là, les enjeux, tu t'entends défendre quels enjeux pour tes commettants, comment tes concitoyens?
Les citoyens, oui, ben, je veux dire, on peut pas passer à côté. Là, la situation, les personnes en situation d'itinérance, les personnes marginalisées plus généralement, là, parce que quand on pense aux personnes en situation d'itinérance, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a énormément d'itinérance cachée, d'itinérance partielle, de gens qui sont marginalisés autrement. Et puis ça, pour moi, il faut agir à deux niveaux. Il faut agir en premier en haut de l'entonnoir. Ce que j'appelle l'entonnoir, là, c'est toutes les situations qui mènent à une personne qui est marginalisée. C'est une personne qui perd sa job parce que la situation économique...
Les loyers qui ont monté.
Les loyers ont augmenté, pas capable de se trouver un autre loyer. Misère à se trouver un médecin, pas capable d'avoir des
santé
soins.
Santé mentale,
pas capable de trouver la bonne médication. Se tourne à quelque chose que c'est peut-être un voisin, un cousin qui a donné.
Drogue.
Il tombe dans la consommation. Puis, à chaque niveau, est-ce que des questions d'agences individuelles, oui, mais aussi à l'échelle macro, tu sais, si ça augmente aussi vite comme on l'a vu, c'est qu'il y a des ratés sociaux là-dessus, puis il faut fermer la valve en haut de l'entonnoir qui mène à l'explosion de personnes, de citoyens en situation d'itinérance marginalisée. Alors, il faut agir en haut, puis après ça, il faut aussi agir en bas pour renforcer le filet social, puis ça, ça veut dire aider les organismes communautaires. Moi, ma priorité, là, dans Tachereau, c'est ça.
Il y a beaucoup d'organismes communautaires, on en parlait l'autre fois, ouais. Hein? Et elles donnent des services. Ouais. Mais à un moment donné, c'est où tu arrêtes à donner le service dans la mesure où c'est un service de luxe, parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de sans-abri de Montréal qui descendaient à Québec parce qu'ils étaient mieux traités dans la rue. Par les organismes et il y avait accès à peut-être des services qu'il n'y avait pas à Montréal parce qu'il y a trop de monde.
Ben moi, je ne vais jamais dire que quelqu'un qui est en situation d'itinérance à Québec c'est dans une position de luxe, même si sa position est peut-être un
c'est
peu meilleure
que
celle
que
de Montréal.
Dit,
non, je comprends, mais tu sais,
c'est qu'on reçoit un trop-plein de d'autres villes.
C'est
parce
un appel d'air.
Ben, c'est qu'il y a un problème généralisé à travers le Québec au complet. C'est pour ça qu'il faut agir à l'échelle nationale.
Ça ne se règle pas.
Ça se règle pas. C'est, faut pas c'est ça. Il ne faut pas s'imaginer que c'est juste une poignée de main d'organismes communautaires dans Tachereau qui vont régler le problème à travers le Québec au complet. Il faut absolument les aider. Il faut absolument que eux, tu sais, c'est le filet social très local, ils aident les gens qui peuvent, mais le gouvernement a une responsabilité de fermer les valves qui sont en train d'exploser.
Mais comme tu dis, c'est un problème qu'on essaie souvent d'y aller de manière curative. Donc, un coup qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens dans la rue, il y a des gens en situation d'itinérance, on cherche des solutions. Mais je sais que tu as un background en économie puis que ça t'intéresse aussi. Quand tu regardes la littérature économique, il y a un lien très clair, identifié par un paquet d'études entre la crise du logement et l'itinérance.
Absolument.
Puis on dirait qu'on parle jamais de ça. Pourtant, les deux sont absolument corrélés. Plus on parle de la crise du logement, plus ça devient un sujet, plus il y a de gens qui tombent en situation d'itinérance. Mais on dirait qu'on parle jamais de ça. On dit, ah, ça
ben, en tout cas, le Parti libéral a des gros engagements en logement.
C'est quoi
là,
vos
une,
engagements
une, là-dessus? Moi, une des choses qui m'ont vraiment dit, OK, le parti est sérieux là-dessus, c'est l'engagement de bâtir 100 000 logements par année à terme. Ça ne va pas être la première année, là, mais à terme.
100 000 logements par année?
100 000 nouveaux logements par année. Ça, c'est agressif, mais contesté.
Les analystes regardent ça, disent, ça va être...
On ne dit pas que c'est facile, mais c'est un gros défi social qu'on doit relever parce que justement, l'alternative, c'est de continuer à avoir une explosion d'itinérance. Mais je veux juste continuer parce que c'est pas juste du logement. On s'est engagé aussi à 40 000 logements sociaux, logements abordables dans les 5 prochaines années. À terme, arriver à 10 000 nouveaux logements de ce genre-là par année. Et notre objectif à long terme, d'ici 2050, c'est d'avoir 20 % des logements étant hors marché. Puis ça, c'est des logements que tu peux aller louer, mais le propriétaire, tu ne peux pas l'acheter, le vendre à des fins spéculatives. Puis ça, ça freine aussi l'explosion des prix.
Ça, ça veut dire que les municipalités vont devoir débloquer les permis, là?
Il va falloir travailler avec les municipalités, certainement, mais on est prêt à le faire.
Parce que tu as beaucoup de municipalités, depuis quelques années, ils se traînent les pieds. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Elles ont profité beaucoup là, de l'écart de richesse entre les maisons qui croissent. Il y a beaucoup de taxes là, qui viennent chercher les
villes. Mais en même temps, leurs coûts ont explosé justement en services sociaux, de choses qui avant appartenaient pas, c'était pas des responsabilités municipales, sont devenues des responsabilités municipales parce que justement, il n'y avait pas assez d'aide. Et puis pendant ce temps-là, ben, les valves en haut de, de l'entonnoir étaient ouvertes, ce qui a mis énormément de pression sur les villes. Alors oui, je comprends qu'ils ont peut-être eu un petit bénéfice financier de l'explosion des prix
immobiliers. Pas mal, là. Regarde les taxes qui ont monté beaucoup.
Mais
là.
Je veux dire, regarde les coûts qu'ils ont été obligés de dépenser additionnels. Moi, j'ai l'impression
villes...
qu'il y a bien des municipalités qui seraient prêtes à travailler avec nous.
Est-ce que les champs de compétences des villes doivent être limités? Parce qu'à un moment donné, il y a des champs de compétences provinciaux. Là, les villes commencent à jouer dans toutes sortes d'affaires.
Mon objectif, c'est pas d'aller me chicaner avec les compétences des municipalités. Là. Les municipalités, je veux dire, on a des élections municipales, ils ont un mandat qui vient du peuple, il faut respecter ça aussi. Il faut qu'on travaille avec les municipalités.
OK. Troisième lien.
Oui.
Pour ou contre?
C'est devenu tellement politisé que j'aimerais vraiment pouvoir te donner juste une réponse pour qu'on passe à autre chose, là, mais c'est un projet d'infrastructure. On le traite comme n'importe quel autre projet d'infrastructure.
Mais votre chef a comme reculé un peu là, dans les derniers jours.
Non, mais tu sais, ça reste quelque chose qu'on se dit, on va écouter les experts, on va écouter les gens qui connaissent ça. On a une expertise au gouvernement, je veux dire, on a un ministère qui est supposé se pencher là-dessus. Au lieu d'en faire des promesses politiques pour aller gagner des points ici, puis rire là, puis reculer quand ça nous fait notre affaire, puis avancer quand ça fait notre affaire, on le traite comme on devrait l'avoir traité à la base. C'est un projet d'infrastructure, on va écouter les experts. Et à mesure que les experts
nous disent... Il n'y a pas de position là-dessus. Là.
Ben, la position, c'est de continuer à évaluer l'évolution de la population, évaluer l'évolution des besoins, traiter ça avec l'expertise. On n'est pas en train d'en faire un projet idéologique. C'est quelque chose qui va se faire quand on en aura besoin.
Mais comment on fait pour avoir une crédibilité sur ce genre de... plus que ce que le gouvernement actuel a fait, avance-recule, puis je te demande pas d'endosser toute l'histoire du Parti libéral, mais si on se rappelle, 2018, les libéraux sont en élection, ils avaient déclenché le bureau de projet pour l'étude du troisième lien, ils étaient en faveur, M. Couillard était en faveur, ils ont été battus, on connaît l'histoire, mais par la suite, Mme Anglade, elle a dit qu'elle était plutôt contre, le parti est redevenu contre, là, on sent qu'ils redeviennent... Il n'y a pas un danger aussi, tu sais, de faire un peu le même chemin que la CAQ, avance-recule.
Ben, ce qui est dangereux, c'est d'ajuster toujours ses voiles en fonction du vent là-dessus. Là.
On a non, mais besoin tu y vas pas, là. T'sais, à un moment donné, ça fait 20 ans là, que le monde...
Ben, t'sais, je veux dire, est-ce qu'on se pose ce genre de questions-là sur d'autres projets d'infrastructure?
Pont, on parle d'un pont, là.
Oui, on parle d'un pont, je comprends, mais je veux dire...
On parle d'un pont au Québec en 2026, pont, là. Tu dis ça au monde, là, un pont. Je veux dire, on est rendu qu'on n'est plus capable de construire un pont au Québec. On a-tu un problème au niveau de la croissance?
Au-delà de la croissance en général, les infrastructures vont être mises à l'épreuve dans les prochaines années.
On le voit, là, le pont de Québec, c'est pas mal la fin de ce pont-là.
Puis on a une responsabilité aussi envers l'ensemble de la mobilité. C'est pour ça qu'on parle, je veux dire, les transports en commun, ça va alléger les problèmes sur les infrastructures aussi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça. C'est pour ça qu'on appuie le tramway. C'est pour ça qu'on appuie
le tramway, puis le pont de Québec, je veux dire, puis le pont Pierre-Laporte, je suis pas sûr qu'il va y avoir du trafic pareil, là.
Mais on s'entend que chaque personne qui décide de prendre une autre forme de mobilité, qui met sur les traversiers, par exemple, où on veut les remplacer plus rapidement, ben ça, c'est un véhicule de moins sur les ponts, ça rend ça beaucoup plus facile, puis ça change la donne aussi, puis ça doit être un élément de nos études.
Tramway. Mm-hmm.
Oui, je pense que c'est un excellent projet. Moi, j'espère qu'on...
À 5 milliards, à 15 milliards, parce que là, on est sur un projet à peu près quoi, 5-7 milliards, mais on nous dit qu'au Québec, on ne peut plus rien faire quand ça dope pas ou ça tripe pas.
Ouais, tu sais, je suis dans une position un peu sensible là-dessus, malheureusement, parce que, je veux dire, une des choses qui est dangereuse, j'ai fait des grosses négociations à New York, par exemple, et ce que tu ne veux pas faire, tu ne veux pas annoncer ta position avant de faire quoi que ce soit de négociation. Alors, si je dis ici, aujourd'hui, voici mon maximum ou mon minimum ou peu importe, ben là, ce que je suis en train d'envoyer comme message à tous les entrepreneurs, c'est « Ah, ben vous avez le droit de faire telle chose, telle
chose. » Faire de toute façon.
Il faut qu'on soit responsable, puis il faut que les entrepreneurs soient responsables aussi. Non, la responsabilité du gouvernement, c'est de suivre ça. Alors, je peux pas vous avancer dans des situations hypothétiques.
Non, pas mon temps, mais t'es pour.
Moi, je suis pour. Je suis pour le tramway. Je pense que c'est un excellent projet. Puis je veux aussi qu'on aille phase 2, phase 3, qu'on commence les études pour relier les banlieues, pour qu'on ait plus de mobilité autre que l'automobile, pour que les gens qui décident de prendre leur automobile puissent le faire avoir moins de trafic.
Là, dans la campagne, il y a beaucoup de bruit. Là, on parle des déclarations de toutes sortes de candidats. Je sais que toi, en particulier, quand tu es allé sur plusieurs tribunes, on te rappelait des affaires que tu avais dit dans un podcast, tout ça. Ouais. Mais au final, les gens, je pense qu'ils ont envie d'entendre c'est quoi l'offre politique du PLQ. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent, les gens réagissent dans le commentaire et disent, ben on sait ce que le PQ propose, on sait ce que le PCQ propose, QS. Le PLQ, c'est quoi ses propositions phares? Là, mettons, son long sac sur Québec, là, mais plus globalement aussi.
Ben, si on veut parler de Québec, j'en ai mentionné quelques-unes, mais le traversier, on a aussi un engagement sur le carrefour de l'eau, que je pense qu'il est vraiment intéressant pour l'économie, un engagement pour créer un pôle d'économie basée sur les développements technologiques en défense. Je pense que Québec est super bien positionné pour ça. Il y a l'autoroute Laurentienne qui devrait devenir un boulevard urbain. Ça, c'était un projet qui avait été abandonné par la CAQ, mais je m'explique mal pourquoi, parce que tout le monde était d'accord. C'est le genre de choses qui faciliterait beaucoup aussi le développement de logements, justement, dans le secteur. Présentement, c'est super tough vivre là puis se déplacer, parce que même si on essaye, on est pogné dans des bretelles partout. Il y a des grosses propositions qu'on a déjà faites, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais il faut se rappeler aussi, on est au début de la période électorale. Encore, une période électorale, c'est pas juste un moment de vente. C'est un moment où on va écouter les gens. Et puis, c'est assez tough de dire aux gens, oui, on est à l'écoute quand on a déjà sorti exactement tout notre programme.
Je comprends.
Madame White, qui est candidate pour le Parti libéral, Julie White, dit qu'elle reçoit beaucoup d'injures. Tu te fais-tu injurer? Parce que
régulièrement.
T'étais, toi, sur les réseaux. Ouais. T'es quand même un influenceur connu.
Oui.
T'as un bon reach, là. T'as combien d'abonnés sur toutes tes plateformes?
Toutes les plateformes confondues, à peu près 250 000 dans ces eaux-là, mais il y a des doublons là-dedans.
Mais t'as reçu, c'est quotidien, là, les insultes.
Tous les matins, je me réveille, puis il y en a une.
T'es un vendu, t'es un site.
Ah, toutes les. Ouais, puis tu sais,
c'est truie.
Ouais, mais tu sais, puis je veux quand même le
truie de montagne.
Les femmes l'ont beaucoup pire que les hommes. Moi, je reçois bien des insultes. Bon, on me traite de cave, on me traite de vendu, on me traite de crotté, mais il n'y a jamais eu personne. Le nombre de fois qu'on a critiqué mon apparence physique, là, je peux le compter sur le doigt d'une main. Les femmes en politique, c'est tous les jours.
Tout de suite.
Puis c'est d'une violence exceptionnelle. Ce que Julie a présenté, c'est... Je sais qu'il y a bien des femmes en politique qui reçoivent ça et encore pire encore sur justement leur apparence sexuelle, des attaques sur leur sexualité, toutes sortes de choses absolument affreuses.
Mais moi, j'en reçois, Frank en reçoit, on en reçoit tous. Ouais. Mais on est-tu blindé à ça? On peut, à un moment donné, il faut se faire une carapace. Là.
Ben, le danger de se faire une carapace, c'est que si la solution, c'est de dire aux politiciens, ben faites-vous une carapace, ce que tu es en train de dire aux politiciens, c'est deviens insensible à l'émotion qui t'est générée par le public.
Non, mais je veux dire, il y a choses que tu peux pas tolérer. Moi, il y a du monde que je bloque.
Oui, oui, c'est pour ça que moi, je dis toujours à tous les politiciens de toutes les orientations politiques, là, quand ça déborde, des attaques, bloque.
Puis les haters...
Si tu ne permettrais pas à quelqu'un de te le dire dans ton bureau, tu n'as pas à permettre à quelqu'un de te le dire dans tes messages privés.
Farnell Morissette, candidat libéral dans Taschereau, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ça a pas été, tu t'es pas fait démolir.
Si on dit qu'on veut parler aux gens, là, puis on dit non, mais je veux juste aller vous parler si je suis d'accord avec vous d'avance, ça marche pas. Là. Alors moi, je suis toujours content d'être ici, là, ça me fait plaisir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Après la pause, Sylvain Charbois, le food professor, est avec nous autres, on vient.
Culture dans le mid, Radio X.